Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle apérophonie ce soir sur Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui c'est une apérophonie très spéciale parce qu'on a un invité très spécial, monsieur Joseph Sifakis qui est à côté de moi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes un éminent informaticien grenoblois, vous êtes lauréat du prix Turing 2007, équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Vous avez été récompensé pour vos travaux sur le model checking avec deux collègues à vous, Edmund Clark et Allen Emerson si je ne me trompe pas. Et vous donnez une conférence le mardi 9 mai à 18h30 à l'amphithéâtre Louis Veil qui se trouve juste à côté de la radio. C'est sur le campus de l'UGA. Et on va parler d'un sujet en plein cœur de l'actualité, qui en passionne, qui en effraie, qui est l'intelligence artificielle. Mais avant de commencer sur l'intelligence artificielle, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous êtes expert des systèmes autonomes. Qu'est-ce que c'est qu'un système autonome ?
Oh, l'idée est très simple. L'idée est de remplacer des hommes qui effectuent des tâches diverses et variées par des machines. Donc c'est la vision de l'Internet des objets. On parle de voitures autonomes, on parle d'usines intelligentes, on parle de télécommunications autonomes. Donc c'est, un pas vers l'intelligence artificielle généralisée où tout sera automatisé et on pourra remplacer, les machines pourront remplacer les hommes, si elles sont super intelligentes, bien sûr.
D'accord, donc c'est les voitures autonomes, c'est les machines dans les usines qui vont assembler toutes seules, etc.
Oui, mais c'est aussi des administrations autonomes, ça peut aller très loin comme idée. C'est aussi des systèmes autonomes en agriculture. Vous pourrez avoir des fermes autonomes, vous pourrez avoir des robots qui cultivent des champs de façon autonome. Et c'est déjà le cas.
Et du coup, plus tard, vous pensez que ce sera généralisé ?
Mais il y aura des robots partout. Maintenant, la question qui est importante, c'est, et qui est actuellement une question très chaude et discutée, c'est si on doit faire confiance à l'IA. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA ? Étant donné que l'IA, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des systèmes dont on ne peut pas garantir les propriétés parce qu'on ne comprend pas comment ces systèmes marchent exactement.
Ok. Et du coup, justement, avant de parler de ça, de parler de comment fonctionne une IA, l'intelligence artificielle, à la base, c'est un programme. C'est un programme qui devient intelligent. Comment est-ce qu'il devient intelligent ?
Je pense que il faut être plus précis que ça, parce qu'il y a une distinction entre un programme et un système IA. On peut utiliser des programmes pour entraîner des systèmes IA. Mais en fait, en informatique aujourd'hui, nous avons deux paradigmes, deux modèles de calcul. Les ordinateurs traditionnels qu'on programme et les réseaux neuronaux qu'on entraîne. Donc, lorsque vous écrivez un programme, vous donnez une séquence d'instructions qu'un ordinateur classique va exécuter. Donc, vous pouvez raisonner, vous comprenez exactement ce que vous faites. Par contre, si vous avez un réseau neuronal, c'est juste un circuit que vous entraînez à travers des exemples. Vous donnez beaucoup, beaucoup d'exemples et vous fixez les paramètres de telle sorte, par exemple, que le circuit distingue des images des chats et des chiens. Donc, le modèle est tout à fait différent. Lorsque vous écrivez un programme, vous comprenez comment ça marche. Lorsque vous avez une IA, vous avez des méthodes pour fixer ces paramètres, des réseaux neuronaux, mais il est très, très difficile d'avoir un modèle qui explique le comportement des réseaux neuronaux.
D'accord. Donc, c'est comme avoir une maison qui tiendrait debout, mais on ne sait pas pourquoi elle tient debout.
Oui, c'est comme avoir un outil qui marche. Non, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a deux façons de produire les connaissances aussi chez l'homme. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a une distinction entre ce qu'on appelle le système 1 de pensée et le système 2 de pensée. Le système 1 de pensée, c'est la pensée automatique. C'est-à-dire, on produit des connaissances, on résout des problèmes automatiquement. Par exemple, lorsque je parle, je ne sais pas comment tout ça est organisé, je parle. Lorsque je marche, mon cerveau résout un problème mathématique très, très difficile. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, déjà, et les réseaux neuronaux s'inspirent des réseaux de notre cerveau. Ça, il faut le dire, hein, des réseaux neuronaux de notre cerveau. Donc, ce modèle de calcul existait déjà dans la nature et c'est donc un modèle de calcul qui est différent du modèle de calcul classique où on a un comportement explicite. Donc, je disais, juste pour être complet, que notre pensée combine deux systèmes de raisonnement. Un système de raisonnement inconscient où on produit automatiquement des connaissances et on les applique, et un autre qui est un système conscient, c'est le système 2, d'après la terminologie établie. Et le système 2, c'est le système de pensée qui est organisé où je comprends ce que je fais. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que vous ferez après cette discussion, vous pouvez me dire, vous raisonnez de façon procédurale, ok ? Et c'est très différent.
D'accord. Ben merci pour toutes les précisions. En tout cas, c'est important, vous avez raison d'être précis. Et depuis quand ça existe, l'intelligence artificielle ?
Mais l'IA, c'est aussi vieux que l'informatique, parce que le père de l'informatique, qui est Alan Turing, a mis aussi les fondements de l'IA, et il a proposé son fameux test pour tester l'intelligence des machines, le test de Turing. Je ne sais pas si il y a eu même un film, Imitation Game.
Oui, exactement, oui. Et qu'est-ce que concrètement, aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire ? Et une petite question pour aller un peu plus dans le futur. Quels sont les domaines qui ont le plus à y gagner de l'intelligence artificielle et de son développement ?
D'accord. Bon, tout d'abord, il n'y a pas une intelligence artificielle. Il y a eu toute une évolution historique de l'intelligence artificielle. Il y a eu des écoles qui se sont confrontées. Il y a eu une école intelligence artificielle symbolique qui privilégiait le raisonnement organisé, enfin le système 2 humain dont je parlais. Et finalement, c'est l'intelligence artificielle connectique. Connectique signifie donc qu'on a des réseaux neuronaux, on a des circuits, qui a gagné. Et qui a gagné, pourquoi ? Parce qu'on peut résoudre efficacement des problèmes qu'on ne peut pas résoudre en analysant par la pensée explicite. Juste pour vous donner un exemple, je peux avoir un réseau neuronal qui distingue entre chat et chien. Donc, je présente des photos. Et le réseau neuronal, il va dire « c'est un chat, c'est un chien ». Lorsque j'étais étudiant, j'avais un cours de reconnaissance de forme. Donc on apprenait à distinguer un chat d'un chien, mais avec la méthode de raisonnement explicite. Ce qui veut dire qu'on apprenait à distinguer différentes caractéristiques du profil d'un chien ou d'un chat. Et ça, c'est très laborieux. Par contre, l'intelligence artificielle, actuel, fait une analyse globale, prend l'image et donne la réponse. Donc c'est un problème qui, algorithmiquement, si je cherche à le résoudre de façon raisonnée et algorithmique, c'est impossible, enfin c'est très, très difficile. Voilà, et ça c'est une grande différence. Donc l'IA, pour répondre à votre question, permet de résoudre des problèmes qui sont, par raisonnement explicite, très difficiles, comme par exemple analyser des images, comme par exemple traduire des langages naturels, comme par exemple faire des analyses médicales, donc des problèmes qui sont par leur nature complexes, qu'on ne peut pas donc capter par raisonnement, juste pour vous donner un autre exemple qui est impressionnant. Le cerveau humain, la pensée humaine, a des capacités limitées de raisonnement. C'est un fait. On parle de complexité cognitive. C'est-à-dire, on peut pas, on peut difficilement comprendre, appréhender des relations où il y a plus de, disons, 5 paramètres indépendants. Donc, si je vous dis une histoire avec 15 personnages différents, vous êtes perdu. Okay, bon. Et toutes les théories scientifiques qu'on a construites, c'est des théories scientifiques relativement simples. Alors, du fait que nos théories scientifiques sont simples, on ne peut pas, lorsqu'on applique une théorie scientifique, par exemple, pour expliquer des phénomènes sociaux, des phénomènes économiques, des phénomènes géophysiques, c'est des phénomènes extrêmement complexes. Par exemple, il y a les économistes qui ont été critiqués parce que il simplifie la réalité, parce qu'il ne peut pas modéliser le facteur humain, qui est très important en économie. Ce qu'on peut faire avec les réseaux neuronaux, c'est que les réseaux neuronaux n'ont pas les limitations des hommes. Ils peuvent prendre en compte des milliers, des millions de paramètres. Donc, avec les réseaux neuronaux, on va pouvoir analyser des phénomènes. On ne sait pas comment ça va marcher, mais disons, ils seront des espèces d'oracles, comme dans l'Antiquité, où on va leur poser une question sur l'évolution économique, sur l'évolution des prix, sur la prédiction, par exemple, des séismes. Il y a des systèmes très intéressants, ok? Et ils vont répondre, ok? On ne saura pas comment. Et ça, ça fait aussi, ça ouvre des possibilités de développement de connaissances, mais c'est une science où on peut prévoir sans comprendre. Et vous imaginez peut-être les dangers, parce que jusqu'à maintenant, la science, lorsque vous construisez une maison, par exemple, on comprend que, parce qu'il y a la théorie derrière, on comprend que la maison ne va pas s'écrouler. Hein? Donc il y a l'aspect prédictif, mais il y a l'aspect aussi compréhension et garantie. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas avec l'IA.
Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez commencé à parler des dangers, etc. Ça attaque sur ma deuxième partie d'émission. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de faire une première pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après sur Campus Grenoble 90.8 pour continuer à parler de tout ça.
Très bien.
À tout de suite.
Bloody tears.
Bon retour sur Campus Grenoble 90.8 pour cette apérophonie. Je suis en compagnie de Monsieur Joseph Sifakis, prix Turing 2007, pour son travail sur le modèle Checking avec deux de ses collègues. On parle de l'intelligence artificielle. On a fait une première partie sur l'état actuel et un peu l'histoire de l'intelligence artificielle. Et maintenant, je vais poser des questions plus sur le futur, ce qui pourrait arriver, et quelques questions éthiques, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le débat sur les IA. Mais tout d'abord, du coup, la question... Non, tout d'abord, pour les personnes qui écoutent cette musique, enfin, qui ont écouté cette musique, la petite particularité, c'est qu'elle a été composée et écrite par une intelligence artificielle en 2018 pour l'Eurovision 2019. Et donc, 2018... oblige certains, enfin des musiciens sont venus réarranger la composition, etc. Mais au final, ça donne quelque chose qui fonctionne, ça rentre dans la tête. Et moi, je l'ai écouté hier et ça m'a un peu resté dans la tête, jusqu'à ce que ça m'énerve un peu d'ailleurs. Mais du coup, voilà, donc les intelligences artificielles peuvent aussi faire des choses créatives.
Oui, bon, il faut relativiser la créativité des IA. Par exemple, ChatGPT fait une grande synthèse des connaissances et peut donc faire preuve d'une certaine créativité lorsque vous lui posez des questions générales. Par exemple, écrire un poème ou faire un résumé de l'histoire de la France au XXe siècle. Il se débrouillera très bien, peut-être avec quelques incohérences, mais bon. Lorsque vous demandez de répondre à des questions plus précises, résoudre des problèmes mathématiques, raisonner dans l'abstrait, je pense que là bon, il y a des papiers qui expliquent qu'il sera moins capable de le faire, et il y a de bonnes raisons techniques pour ça. Parce que, contrairement à l'homme, qui a un modèle sémantique du monde dans son esprit, et peut raisonner, vérifier des incohérences, ChatGPT fait une grande synthèse de ses connaissances en se basant sur un système probabiliste. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons, ChatGPT ne comprend pas exactement, ne peut pas vérifier la cohérence des textes qu'il produit.
D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne comprend pas à proprement parler ce qu'il dit ?
Non, mais il n'y a pas de compréhension, ouais, voilà, pour comprendre. Ça, ouais. Disons, la définition de la compréhension, c'est qu'on a un modèle. Et ChatGPT n'a pas de modèle explicite de ses connaissances. Bon, quelqu'un dise que le modèle est codé par ses paramètres, etc., mais il n'y a pas de modèle explicite. Lorsqu'on n'a pas de modèle explicite, on ne peut pas raisonner sur le modèle, on ne peut pas vérifier des incohérences. Okay? On ne peut pas vérifier qu'il y a deux assertions dont l'une contredit l'autre.
D'accord. Donc là, c'est ma question grandiloquente dont je vous ai parlé en off pendant la pause. Est-ce que les intelligences artificielles, une fois qu'elles seront encore un peu plus développées, pourraient être une plus grande révolution technologique qu'Internet ?
Bien sûr, oui. Je pense que oui, ce sera une très grande révolution. C'est déjà une très grande révolution. C'est impressionnant ce qu'on arrive à faire, parce que c'est un outil, tout d'abord. Je parlais des limitations cognitives de l'esprit humain, donc ce sera très utile, par exemple, pour nous faire des résumés, pour vérifier la cohérence de certains textes. Oui, ce sera très très utile. Mais il faut comprendre que ces systèmes sont spécialisés et ne peuvent pas remplacer l'intelligence humaine, parce que l'intelligence humaine, c'est un ensemble de compétences qui sont réunis et qui sont gérés de façon cohérente par notre esprit. Donc ChatGPT ne pourra pas conduire une voiture, ne pourra pas piloter un robot industriel. ChatGPT, c'est fait pour transformer des textes ou des images, des documents en tout cas. Donc ils sont hyper spécialisés pour résoudre des problèmes dans un domaine. Et dans l'avenir, peut-être l'IA aussi pourra conduire des voitures. Enfin, j'en sais rien, mais pour l'instant, il y a des projets expérimentaux pour ça. Je pense qu'on aura des IA qui seront capables de réaliser des tâches Maintenant, bon, il faut comprendre que l'intelligence humaine, c'est la coordination d'un ensemble de tâches. Et ça, c'est très difficile à réunir dans un seul IA pour l'instant.
D'accord. Et abordons les questions d'éthique. On a de grandes avancées en ce moment sur l'intelligence artificielle. C'est même arrivé dans le débat public. Et beaucoup de chercheurs, dont vous venez de me dire, ont signé une pétition pour proposer de faire une pause dans le développement des IA.
Un moratorium de 6 mois. Ouais.
Voilà, c'est ça.
En fait, bon, il y a beaucoup de monde qui a signé. L'idée est de prendre un peu le temps de réfléchir. Et je pense que le problème actuel, c'est que il y a des décisions politiques à prendre, ça c'est sûr. Les institutions n'ont pas pris position pour l'instant. Même les académiques sont très réticents à prendre position. Et on laisse faire. Et je pense que c'est quelque chose qui est très dangereux. Surtout si l'IA est utilisée pour prendre des décisions critiques. Alors, décision critique en médecine, dans la conduite des systèmes, dans l'évaluation des carrières des hommes, etc. Ce que je voudrais signaler, c'est que pour tout artefact, pour tout système qu'on construit aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit une toastière, que ce soit un jouet, un four électrique, etc., ou un avion, il y a des normes. Il y a des normes qui garantissent la sécurité, la sûreté de fonctionnement. Et pour l'IA, et c'est vrai en général pour les systèmes informatiques, sauf quelques systèmes très critiques, il n'y a pas de normes actuellement. Et cela est un grand problème. Donc, lorsque vous achetez quelque chose, vous l'utilisez, il n'y a pas de garantie que ce système se comportera d'une façon, de la façon dont vous attendez à ce qu'il se comporte. OK ? Et c'est un problème qui est très grave. Donc il y a un problème déjà de réglementation dans l'utilisation des IA. Et c'est dommage que les gouvernements ne s'engagent pas là-dessus. Dans certains pays comme les États-Unis, il y a cette idée d'auto-certification. Je parlais de garantir les propriétés des systèmes, des toastières, des systèmes électriques. Et donc, ces systèmes sont certifiés selon des standards. Et auto-certification signifie que c'est le fabricant du système qui garantit. Bon, c'est un peu bizarre parce que les certificateurs doivent être des organismes indépendants selon des normes qui sont transparentes. Donc, il y a ce problème de la fiabilité des systèmes de l'IA. Il faut que les gouvernements s'en occupe et que ça soit réglementé. Après, vous avez parlé des questions éthiques et je pense qu'il y a deux grandes questions éthiques en ce qui concerne l'utilisation de l'IA ou des systèmes autonomes, des systèmes intelligents en général. Dans quelle mesure on va remplacer les hommes dans des processus critiques par des systèmes autonomes ou par de l'IA? Sans garantie. J'expliquais que pour l'IA, on ne peut pas avoir les garanties qu'on a lorsqu'on construit un bâtiment ou un pont. Donc, ça, c'est une question qui est très importante. Parce que si vous utilisez l'IA pour des raisons personnelles, bon, c'est pas dangereux. Mais si vous utilisez l'IA pour évaluer la performance de vos employés ou pour prendre des décisions dans un tribunal, ça a une autre portée et une autre importance. Donc, à mon avis, il faut réglementer tout ça. Lorsque les IA sont utilisées pour prendre des décisions critiques, il faut que ce soit strictement réglementé. Et lorsqu'on les utilise, il faut que les gains en efficacité soient compensé par le manque de fiabilité. Ou il faut qu'il y ait des humains dans la boucle, comme on dit. L'autre grand système, dilemme éthique, qui à mon avis est le plus important, c'est comment on va quelle sera la division de travail finalement entre humains et machines. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui nous permet de faire mieux les choses, etc. Et dans l'évolution de l'humanité, depuis qu'on a inventé les feux ou les leviers, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, l'homme change. Hein. Par exemple, lorsqu'on a inventé les leviers, on a moins besoin de la force musculaire. Okay. Et on a des machines qui construisent des maisons, des bâtiments, et on n'a pas besoin de nos muscles pour faire ça. Le problème, c'est que les machines, enfin les machines intelligentes, nous mettent en concurrence avec tout ce qui est production de connaissances et avec prise de décision. Donc, et là, c'est un champ privilégié, enfin c'est une caractéristique fondamentale de la nature de l'homme, de pouvoir produire des connaissances et de prendre des décisions en évaluant, donc de se comporter de façon responsable. Alors, quel est le risque dans l'avenir ? Le risque dans l'avenir, c'est que les gens, parce qu'il y a la facilité des machines, se déresponsabilisent et qu'ils prennent la voie, une voie facile. On le voit déjà avec les enfants qui utilisent ChatGPT pour écrire des exposés. Hein. Je pense que ça, c'est très grave. Il faut que ça soit réglementé. Je vois des enfants qu'aujourd'hui ne connaissent pas la table de multiplication. Mais ce n'est pas connaître la table de multiplication en soi, c'est qu'on perd toute intuition de ce que c'est des relations de proportionnalité, comment résoudre un problème en arithmétique, etc. Et c'est très grave, parce que les gens vont devenir très dépendants des machines. Et ce que je dis dans mes conférences, c'est que, imaginons que vous avez un esclave et qui exauce toutes vos volontés. Donc, Seigneur, je vous fais ceci, cela, etc. Si vous ne faites rien, et vous devenez trop dépendant de cet esclave. Donc, moi, je pense que le risque, ce n'est pas que les machines deviennent plus intelligentes que l'homme. Ça ne va jamais arriver, je suis sûr. Mais que les hommes, par commodité, deviennent des esclaves des machines, est trop dépendant des machines, parce que les infrastructures deviennent trop complexes pour comprendre comment elles marchent. Vous voyez, par exemple, lorsque vous avez des automatismes partout, à un moment, les automatismes disent « Ah, il faut évacuer cette ville parce qu'il y a un danger imminent ». Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne maîtrisez pas les infrastructures. Okay. Et donc, le danger, c'est ça. C'est qu'on perde on ne puisse pas exercer notre responsabilité en tant qu'homme, on ne puisse pas produire les connaissances et avoir un point de vue pertinent sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas. Parce que ça, c'est l'essence de l'homme. Okay. Si on supprime ça, l'homme n'est plus un homme.
Et pour tout ça, il faut légiférer dessus, mais comme vous avez dit, les gouvernements ne s'en saisissent pas encore. Pourquoi ?
Ça, il faut poser les questions aux politiques. Je pense que c'est des problèmes qui sont extrêmement compliqués. C'est très, très difficile de légiférer. Mais je pense qu'on aurait pu prendre un certain nombre de décisions, par exemple, sur l'utilisation des IA dans l'éducation pour protéger les enfants. Je dis protéger les enfants, ça, c'est très important. Parce que si on donne accès à ces outils aux enfants, ça peut avoir des effets débilitants, vraiment. Hein. C'est que les enfants n'apprennent plus à réfléchir, à résoudre des problèmes et qui deviennent... Et ça, c'est... Moi, j'ai vu des jeunes qui passent leur temps à chercher dans Google quel métier ils vont faire. Je trouve ça lamentable, ok ? Il faut avoir les jeunes, il faut qu'ils aient des rêves, il faut qu'ils aient une vision de leur avenir, et voilà. Parce que chercher dans Google, ça veut dire qu'on se déresponsabilise d'une certaine manière, ok ? On demande un avis à quelqu'un, et peut-être on n'agit pas responsable de façon responsable.
D'accord. Et certains outils comme ChatGPT ont été bloqués en Italie. En Allemagne, la question se discute. Il y a une peur, enfin, une peur, on pourrait presque dire globale, qui s'installe. Du coup, est-ce que vous pensez qu'elle est légitime ?
Je pense qu'il faut, il faut être plus fin lorsqu'on réglemente ces outils. Okay. Il faut être plus fin et il faut aussi avoir un moratorium, comme c'était écrit dans notre pétition, pour prendre le temps de réfléchir. Parce qu'il y a une techno qui va très vite et les gens n'ont pas le temps de réfléchir sur toute la société, n'a pas le temps d'assimiler et de réfléchir sur toutes les conséquences de ces outils. Bon, il y a qui font une analogie avec le nucléaire. Hein. C'est-à-dire, on est arrivé à des moratoriums sur le nucléaire, on a dit on arrête, on n'avance pas dans cette direction. Je pense que c'est du progrès, c'est des technologies très intéressantes pour l'avenir de l'humanité. Il faut quand même que dans cette évolution, l'homme reste maître de son destin. Et donc, il ne faut pas enlever à l'homme tous les sens de l'homme, qui est la capacité de comprendre le monde tout seul, avec évidemment des connaissances, développer des connaissances, et choisir de façon responsable, ça c'est sûr.
Et donc il y a eu de grandes avancées dernièrement, mais est-ce qu'il y a un plafond de verre ?
C'est une bonne question. De toute façon, il y a un plafond de verre. Je pense que ChatGPT, ça sera pour transformer des textes, des documents. J'ai dit qu'il faut se mettre d'accord, et ça c'est une question très importante, sur le concept de l'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui disent « ChatGPT peut vaincre l'homme ». Et il y a beaucoup de discussions sur ce que c'est l'intelligence humaine. Pour moi, l'intelligence humaine a plusieurs facettes. Ce n'est pas uniquement donc, ce que fait ChatGPT mieux que l'homme, c'est une intelligence de calcul. Bon, et effectivement, c'est un super calculateur qui nous permet d'analyser des données multidimensionnelles, ce que ne peut pas faire notre esprit. Mais notre esprit, quand même, peut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont inaccessibles aux machines. Par exemple, on a de la créativité, on peut faire des abstractions, on peut créer de la nouvelle science. Et je pense que lorsque vous voyez l'évolution de la pensée humaine et comment, par exemple, les mathématiques ont été créées, la géométrie, les théories en physique, etc., je doute que les machines puissent créer de nouvelles théories. Il faut comprendre que les machines sont capables de digérer de grandes quantités d'informations et ils arrivent à les distiller et à nous donner des résumés. La machine ne va pas inventer quelque chose qui n'est pas la synthèse, d'une façon ou d'une autre, de ce qu'elle a digéré.
Et du coup, dernière question, parce qu'on approche de la fin de cette émission. Comment est-ce que vous prédisez l'avancée de l'IA des IA dans 20 ans ? Où est-ce qu'on en sera ?
Pour moi, l'avenir de l'IA, c'est les systèmes autonomes. C'est le pas d'après. Aujourd'hui, nous avons des briques pour résoudre des problèmes particuliers. Nous avons des systèmes pour jouer aux échecs. Nous avons des systèmes qui traduisent des textes, qui traduisent des images vers des textes, etc. L'idée de l'avenir de l'IA, c'est les systèmes autonomes. L'idée que je peux remplacer un homme pour effectuer une tâche par une machine. Et c'est des problèmes sur lesquels je travaille et qui sont des problèmes extrêmement complexes. Parce qu'à part le fait qu'on doit construire un système qui est intelligent, et qui doit gérer plusieurs objectifs à la fois, travailler sur plusieurs domaines à la fois. Ça, c'est un problème extrêmement compliqué. Et il faut aussi le mettre en œuvre, et ça pose aussi des problèmes d'ingénierie système qui n'ont rien à voir avec le fait que l'agent est intelligent. Donc, on en a pour longtemps. Vous voyez, pour les voitures autonomes, il y avait une personne qui est toujours devant dans l'actualité, vous devinez de qui je parle, qui disait en 2016 que les voitures autonomes, c'est dans 2 ans. Ils ont investi beaucoup d'argent, les résultats, c'est nul. Des voitures complètement autonomes, on n'en aura pas, je ne sais pas si on aura un jour, mais disons, tout ça est ajourné et vous voyez, donc, il y a une vision de l'IA qui va beaucoup plus loin que la vision de l'IA actuelle, que certains appellent à juste titre IA faible, et on parle de IA forte ou de IA généralisée, de AGI, Artificial General Intelligence.
Eh bien, écoutez, je vous remercie, j'aurais bien voulu vous poser plein d'autres questions. Malheureusement, on a un temps limité, mais je vous remercie d'être venu, de nous avoir accordé ce temps. C'était très, très intéressant et j'en doute pas que ça a beaucoup plu à nos auditeurs. Et d'ailleurs, nos auditeurs, s'ils veulent aller plus loin dans tout ça, vous donnez une conférence le 9 mai à l'amphithéâtre Louis Veil sur le campus de l'UGA à 18h30. Venez-y nombreux, ce sera très intéressant et ce sera le prolongement de cette émission avec, oula, monsieur Joseph Sifakis pour aller beaucoup plus loin, j'imagine.
Merci.
Écoutez, bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, au revoir et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.
Merci pour cette invitation. Merci.
Avec plaisir.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.